Cascodeur Podcast, épisode 255. Interview Java 16 avec José Pomar et Henri Tremblay. Enregistré le 8 avril 2021. Depuis que José fait partie des Java Advocates chez Oracle, donc c'était la petite cachotterie dont on parle au début de cet épisode. Bonjour et bienvenue au Cascodeur, c'est un épisode sur Java 16, puisque Java 16, bah ça y est, c'est sorti, enfin c'était pas sorti quand on a commencé à discuter de cet épisode, et puis c'est sorti maintenant qu'on prend notre temps, mais c'est sorti. Et du coup, il y a plein de fonctionnalités. Et du coup, pour discuter de ces fonctionnalités, je n'ai pas un, mais deux invités. J'ai d'abord José Pomar, qui est déjà venu, mais ça fait toujours plaisir.
Donc, José, merci.
Voilà. Et puis Henri Tremblay, qui, je ne sais pas si tu es déjà venu, ou si au moins pour les enregistrements en direct.
J'en ai fait quelques-uns en direct. Je suis assez rarement intervenu. Donc, une première grande fois pour moi. Je suis très heureux.
Bah super, super. Et donc, c'est Henri qui va nous corriger tous nos anglicismes. C'est, le... c'est ça.
On a intérêt à faire drôlement attention.
Voilà. Je suis la police du français.
La police du français. OK. Et donc, on va... Bah, d'abord, qui êtes-vous, José? D'abord, un petit rappel pour ceux qui nous ont rejoints en cours de route des cascodeurs et qui ne te connaîtraient pas.
Bah écoute, je suis donc mon nom c'est José, hein, les gens m'appellent José, ça fait quelques années que je traîne mes guêtres dans l'orbite des communautés Java, je m'occupe du Paris Jug depuis, j'ai arrêté de compter, ça doit faire pas loin d'une dizaine d'années maintenant, et puis je me suis occupé d'Evox France les trois premières années, je travaille à l'université Sorbonne Paris Nord depuis 25 ans, et figurez-vous que ça va s'arrêter d'ailleurs. Ça va s'arrêter, cette activité-là, pour quelque temps, parce que je vais changer d'employeur très, très bientôt. En fait, je pense que quand les gens écouteront cet enregistrement, ils connaîtront le nom de mon nouvel employeur. Voilà. Et je m'occupe de Java. Ça fait 25 ans à peu près que je travaille en Java, que je donne des cours et tout, à la fois à l'université, et puis également voilà, des entreprises. Je travaille sur différents projets. Je fais partie un petit peu des passionnés, cinglés, enthousiastes, etc. Auditeurs passionnés des cascodeurs et d'autres personnes qui parlent de Java. Voilà.
D'accord. Et Henri, alors
mais donc moi, ben, comme vous avez peut-être pu deviner à l'accent, j'habite à Montréal. Donc, je représente l'Amérique du Nord, en tout cas le côté sain de l'Amérique du Nord. Et je vais me faire plein d'ennemis dans cette histoire. Et comme mes deux autres compères ici, je suis un Java champion. J'ai fait beaucoup de Java pendant longtemps, longtemps. En particulier, j'ai travaillé sur des choses comme EasyMock et ObgenesIS, qui sont des classes qui font des trucs qui sont pas particulièrement légales, mais qui sont extrêmement utiles dans Java.
Pas au sens légal du terme, mais au sens technique du terme.
Exactement. Ça veut dire des choses que Oracle aimerait mieux que nous fassions pas. On va dire ça comme ça. Ce qui peut être légal. Donc, peut-être qu'il va y avoir des avocats qui vont nous tomber dessus juste parce que j'ai dit ça. Mais il s'avère, il y a eu un procès qui était sympa, je pense qu'on n'en parle pas aujourd'hui, mais c'est sorti. Dans mes journées normales, je dirige un bureau de développement à Montréal qui fabrique des systèmes de passage d'ordre, une compagnie qui s'appelle Training Screen. Et sinon, je m'occupe de Montréal Java User Group et quelques autres conférences pour ceux qui sont dans le monde. Il y a le Java Champion, donc le J Champion Conference aussi, qui tourne, qui sont des conférences en ligne. Et voilà.
D'accord. Et José, c'est secret ton employeur, là?
Écoute, c'est encore un peu secret. Ça va être annoncé. On peut donner la date de l'enregistrement, Emmanuel? C'est autorisé de faire ça? Je pense que oui. Hein. On est le jeudi 8 avril. Je termine mon activité à l'université vendredi 9 avril, c'est-à-dire demain. D'accord. Et je commence chez mon prochain employeur lundi Je sais pas combien c'est, le 12, donc ça va être vraiment...
Au pire, on fera un petit crowdcast le 12, comme ça tu n'auras violé aucun...
Eh ben écoute, d'accord, voilà, je prends date.
Ouais. Ça marche.
On fera un petit addendum.
Voilà. Alors, Java 16, déjà c'est beaucoup plus que ce qu'on s'en souvient. Y en a même qui sont encore sur Java 8, mais on va pas refaire toute l'histoire. Ouais. Mais déjà, Java, ça cadence tous les 6 mois. C'est quoi votre retour, vous, en tant qu'utilisateur avancé et intéressé de la plateforme ?
Ah, moi, j'aimerais bien avoir ton avis, en fait, Henri, parce que toi, tu gères un vrai framework, ce qui est pas mon cas. J'aurais bien aimé avoir l'avis de quelqu'un qui gère un vrai framework utilisé par des milliers, des dizaines de milliers, peut-être des centaines de milliers de gens.
D'un point de vue framework, mon Genesis, c'est... Et particulier parce que c'est très, 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 très undercover finalement, mais c'est utilisé un petit peu partout. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça permet de créer des classes sans appeler le constructeur de la classe. Pourquoi on voudrait faire ça? Parce que quand on fait des mocks ou des proxys, c'est assez pratique de ne pas avoir de constructeur qui rentre en jeu. Donc, c'est ce qui a permis d'avoir des mocks de classe. Et puis, par exemple, tous les proxys Spring utilisent ça pour créer les proxys qui sont basés sur des classes. Donc, pour moi, les choses qui ont beaucoup changé depuis Java 8, c'est que de version en version, il y a des morceaux... C'était très stable, Java. Il y a des morceaux qui bougent dans tous les sens. Donc, quasiment à chaque version, il faut... En fait, moi, j'ai du travail. Donc, parce que Genesis, c'est super stable comme truc. Il n'y a jamais besoin de changer rien, en théorie, sauf s'il y a quelque chose qui brise dans le JDK. Et ce qui est quasiment à chaque version ces temps-ci, donc on va en parler avec les permits, allow access, etc. Et aussi parce qu'il y a des trucs qui étaient dans les implémentations internes qui bougent un peu à droite à gauche. Ça c'est comme, on va dire que c'est fair use. Je vais vous mettre un anglicisme, comme ça je vais vous...
Ça fait partie du jeu, ça fait partie voilà. du jeu.
Je vais vous déstresser sur l'anglais direct. Mais oui, parce que ben c'est normal, oui. Oui, je sais que je triche, oui, je sais que j'utilise des choses que je devrais pas utiliser. Donc, si eux veulent le changer, ben j'ai pas à me plaindre parce que je fais des choses qui sont pas correctes. Par contre, quand ça devient totalement interdit, c'est un peu différent. Mais là, je veux pas faire l'éditorial au complet tout de suite, je vais le surbondir. Mais oui, c'est pénible à maintenir depuis quelques versions. Et c'est comme si tous les 6 mois, ça rajoute de la pénibilité parce qu'il faut que je livre des trucs tous les 6 mois.
Ouais. Et en plus, il y a un format qui permet de dire on supporte telle version et puis il y a telle autre et une autre classe pour potentiellement telle autre version, mais c'est pas hyper diffusé. Je me rappelle plus le nom de cette fonctionnalité qui est arrivée, je crois, en 9 ou en 11.
Oui.
C'est un peu des multijars, c'est ça?
Ouais,
c'est un truc comme ça. Des multijars il y a quelques temps.
Je pense que personne ne l'utilise parce que ça marche pas en 8. Donc, comme tu veux être compatible en 8, il faut que tout ton truc compile avec du 8. Fait que si tu veux mettre des ouais, je sais plus le nom, moi aussi j'ai oublié.
Multi-release jar files.
Voilà. Donc, si tu veux faire ça, ben, il faut que tu sois à partir de 9, ou bien il faut que ça soit ton 8 qui soit en principal, puis après, tu surcharges pour les autres trucs après. C'est dangereux parce que les frameworks qui font du deep reflection, mais qui vont fouiller dans les jars pour voir les classes qui sont annotées. Hibernate fait ça, entre autres.
On appelle ça du scanning chez nous. Ouais.
Voilà, du scanning, exactement. Mais quand le framework n'est pas au courant qu'il va avoir un module info.java et qu'il va avoir des classes magiques cachées dans un coin pour faire du multi-version, ben ça fait pouf. Donc, il y a un risque
à l'utiliser. Il y a le package meta-inf.version.9.com.
Exactement.
D'accord. Et après, je sais même pas si les outils supportent ça bien. C'est-à-dire qu'il faut quand même de l'outillage parce que si tu veux reconstruire ton jar à la main et savoir exactement quelle classe fait ceci, cela, voilà, je sais pas si les IDE, les outils de build ont des supports de multi-release jar. Voilà. Ça, c'est un autre point.
Je l'ai pas essayé, mais ça me fait peur. Je sais qu'au point de vue Maven, ça demande un petit peu de jonglerie de configuration pour arriver quelque part, en tout cas.
Ouais. Ouais. OK. Nous, de notre point de vue, des frameworks un peu plus haut niveau, c'est un peu les mêmes, c'est les choses qui disparaissent et qui bougent, même si on le sent un petit peu moins quand même, il y a moins de choses qui cassent. Après, on est consommateur de frameworks comme les tiens, et du coup, on est un peu tributaire, du coup, c'est un peu les poupées russes, hein, on est obligé d'attendre que tout le monde ait mis à jour. Donc là, il y a une petite tension entre le Java rêvé, le Java réel et comment on converge, on va dire. Voilà, donc Java 16, c'est arrivé quand ?
Mars.
16 mars 2021. En plus. Mars. Ouais, c'est beau ça.
Oui, mais je pense qu'ils font exprès. Je viens de réaliser, mais je pense que le prochain va être le 17 mars, le 17 septembre. D'accord. Mais...
Bon, Java 31-32, là, ça commence à être chaud, hein, selon le.
On va avoir un problème dans 8 ans, en fait.
C'est ça. Voilà, sinon, après, moi, en tant qu'utilisateur, utilisateur finaux, j'ai pas vu beaucoup de gens. Il y a toujours les enthousiasmes qui sont un peu à la pointe. Et après, il y a quand même du monde en Java 11. Là, la grosse conversation qu'on a, c'est est-ce qu'on abandonne Java 8 ? Voilà, c'est la conversation qu'on a. Et encore, c'est sur des frameworks un peu avancé de type Quarkus où on est quand même sur des gens qui sont vers la modernité plutôt que sur le passé. Et ça râlait, pour info. Donc, voilà.
Ça ne m'étonne pas. Chez O'Reilly, je donne des cours en ligne qui parlent des nouvelles choses qui se passent dans Java, dans les dernières versions. Et à chaque fois, je demande au début un sondage... qui est-ce qui utilise quelle version? Ça s'améliore. La dernière fois, je pense que j'avais un 40% de Java 11. Ouais. Qu'un Java 11 et plus, mais on n'est pas... Puis il y avait plus, donc 40% de Java 11, et après, c'était à peu près 40% de Java 8. Donc le reste, c'était du 9 et plus. Ça veut dire que pour la première fois, ça a dépassé. 11 avait dépassé... plus de 8 a dépassé 8. Mais je pense que les gens qui sont à ce cours-là sont plus avancés que les autres qui sont dans la vraie vie. Là. Ouais. Fait que je pense qu'on est encore loin de sortir du 8, très sincèrement.
Ouais. La vision que j'ai sur les projets que je vois, etc., la majorité sont 8. Il y en a quand même une quantité non négligeable qui est passée en 11, ce qui est une bonne nouvelle. Mais moi, je connais encore des projets qui sont bloqués en 6, hein. Ouais. Donc une version qui a 2006-2021, hein, qui a 15 ans. Et les gens sont bloqués en 6 pour des raisons assez terribles. Ils sont bloqués avec des vieux progiciels, ils sont verrouillés dans des vieux progiciels qui eux, ne bougent pas. Ils en sont complètement dépendants du point de vue fonctionnel. Et en fait, ils ne peuvent pas monter de version du fait de ces dépendances vers ces vieux progiciels. Et j'ai peur que ces projets-là, malheureusement... ils traînent encore pendant quelques temps, quelques années, jusqu'à ce qu'ils soient décommissionnés, en fait. Parce que le sentiment que j'ai, c'est que c'est des logiciels qui sont verrouillés au point qu'ils n'arriveront jamais à monter de version. Mais c'est vrai que les versions intermédiaires, 9, 10, et puis de 12 à 16, quelquefois, les gens font des tentatives sur ces trucs-là. Mais de là à... Je ne vais pas dire prendre le risque, parce que je ne sais pas si c'est si risqué que ça... À sauter le pas et à se dire on va passer en prod et tous les 6 mois on va faire évoluer la prod pour avoir vraiment la dernière version au fur et à mesure qu'elle sort, ça c'est pas quelque chose que j'ai vu, je peux pas.
Par contre au niveau des blogs ça marche bien, au niveau des blogs il y a plus d'annonces plus régulièrement sur Java, donc on se dit pas le langage est mort, donc bon il y a quand même
oui ça c'est sûr. Et puis au niveau il y a deux trucs là-dessus, c'est que quand on regarde le rythme de sortie sur 3 ans en nombre de JEP, en nombre de bugs corrigés, etc. Est-ce qu'il y a eu une accélération ? Peut-être un peu, mais en tout cas, il n'y a pas de diminution du rythme de sortie sur 3 ans ou sur 4 ans, ce qui était le rythme de publication des versions majeures précédentes. Et puis le deuxième truc, c'est ce qu'ont déclaré à la fois Brian Goetz et Mark Reinholds sur le fait que maintenant, ils n'ont plus tous les 3 ans, 6 mois à bloquer dans leur agenda pour s'occuper uniquement de la préparation de la nouvelle version. Brian Goetz, il dit, moi, les nouvelles versions, je m'en occupe plus, en fait. J'ai plus besoin de bloquer le travail que je fais sur les projets les projets à venir, les Amber, les Valhalla, c'est ce genre de projet-là. J'ai plus besoin de bloquer du temps juste pour m'occuper de la version à préparer. Et ça, c'est quand même positif, parce que ça veut dire que c'est du temps de travail gagné sur les nouvelles fonctionnalités qui vont.
Il est gagné au lycée parce que faut quand même le faire le boulot. Ou ils ont travaillé à l'automatisation.
C'est plus lui. Ils ont énormément travaillé. Enfin, manifestement, ils ont énormément travaillé l'automatisation. Ils n'ont plus besoin de décider, de prendre 6 mois pour décider qu'est-ce qu'on met pas, qu'est-ce qui est prêt, qu'est-ce qui est pas prêt, est-ce qu'on retarde de 3 mois pour prendre tel truc important, tu vois. Le fait de pas bloquer les trucs, quelqu'un qui est pas prêt pour la version 16, bah, s'il est prêt avec un mois de retard, c'est pas grave, il sortira en 17. Finalement, c'est pas dramatique. Quelqu'un qui a loupé la version 8, Rémi a quelques exemples hein, de trucs comme ça, je les ai plus en tête, mais quelqu'un qui est bloqué en version 8, bah, il est bon pour attendre la 9 qui était 2 ans, 3 ans après. Quoi.
Ah, les modules. Mais bon, est-ce que c'était un mal?
Ça, c'est du truc.
Ok, on va pas polémiquer, on va parler de fonctionnalités maintenant, on va parler des records. Records. Right. Ah. Qui ne sont pas déjà valides, José. Tu t'es fait engueuler par
Rémi.
Par Rémi, voilà, qui dit, je répète après moi, ce ne sont pas déjà babines. Alors, qu'est-ce que c'est des records?
Mais je lui ai répondu à Rémi que je n'ai pas dit que c'était déjà babines. Donc, je sais que ce ne sont pas déjà babines.
D'accord.
Alors, les records, d'abord, c'est quelque chose qu'est en préparation depuis sacrément longtemps. On a eu deux previews, si ce n'est 3 previews des records. J'avoue que j'ai justement un peu perdu l'enregistrement de ça. C'est un nouveau concept hein, dans le langage, un peu comme les énums étaient un nouveau concept dans le langage, c'est-à-dire c'est un nouveau type de classe qui n'apparaît pas comme une classe au niveau du compilateur. Et les records, c'est compilé comme étant une classe, mais en fait c'est pas une classe quand on le crée comme ça. C'est quelque chose qui est construit sur la notion de composant. Donc un record, c'est une classe qui est construite sur des composants. Alors l'exemple classique hein, qu'on trouve partout, c'est la classe point, qui est construite sur 2 composants x et y qui vont être de type int. Et en fait, ces composants sont déclarés au moment de déclarer cette classe qui est en fait un record. Donc on écrit public record, et puis après le nom du record, donc point, et puis immédiatement entre parenthèses, donc avant l'accolade ouvrante, les composants dans un certain ordre avec des noms et avec des types. Donc int x, virgule, int y, virgule, int z, si je veux un point à 3 dimensions. Voilà. Et après, je vais ouvrir l'accolade et je vais fermer l'accolade et je vais pouvoir mettre du code là-dedans. Et en fait, je ne suis même pas obligé de mettre de code. Si je mets juste ça, ça me crée un record. Et le compilateur, qui est quand même mon ami hein, depuis quelques années, va me générer une classe record avec des champs finaux, privés, et puis des espèces de pseudo-getters. Alors, ce n'est pas des getters au sens où il n'y a pas le get. C'est juste des accesseurs qui vont porter le nom des composants x, y, z et qui vont retourner le bon type.
Et ce machin-là, il est comme des méthodes du point de vue de l'appelant ou ils sont vus comme des champs ou...
Non, c'est vu comme des méthodes. D'accord. C'est vu comme des méthodes. La classe elle est finale, donc elle peut pas être surchargée. Les champs qui sont créés à l'intérieur, ils sont finaux aussi, donc on peut pas les muter. Mais par contre, si je veux créer ces méthodes moi-même, ça, je peux le faire, donc je peux changer un peu le comportement des accesseurs si je veux. Notamment si j'ai un champ qui est de type liste ou tableau, qui est un champ mutable, et que je veux faire une copie défensive dans l'accesseur, je peux le faire. Le compilateur ne va pas le faire pour moi, mais je peux le faire.
D'accord. Alors, ça sert à quoi d'avoir introduit ce truc-là là ? Parce que là, tu as parlé de mutabilité.
Oui. Ça, c'est un truc qui est mutable. Ça sert. Alors. Ça sert à plusieurs choses. D'abord, c'est un nouveau concept dans le truc, dans le JDK. Donc, ça va servir à des choses dont on n'a probablement pas encore tout à fait idée aujourd'hui. Ça va permettre d'innover dans le code qu'on va écrire, ce qui est pas négligeable. Okay. Ça sert à alléger le code. On dit toujours que Java est un langage verbeux qui pourrait être plus concis, etc. Moi, j'aime pas tellement cette notion de concision, tu vois, parce que quand t'as besoin de 10 mots pour expliquer quelque chose, si t'en utilises que 5, ton explication devient plus concise mais incompréhensible. Donc, je trouve pas que la concision ce soit un bon paramètre à regarder. Enfin bon, ça c'est peut-être moi. Mais il n'empêche que voilà, si tu veux aujourd'hui, si tu veux transporter un état juste d'un module de ton application à l'autre. Bah, tu as cette notion de Java Bean qui est là, et c'est ça que tu vas utiliser. Et finalement, tu te retrouves avec une classe à écrire, avec son constructeur, avec ses champs, avec ses accesseurs, getter, setter, si tu veux qu'elle soit finale, il faut que tu fasses des trucs en plus. Et puis, tu vas avoir besoin d'écrire du equals, du hashcode, du toString, tu as tout un tas de codes techniques Comment on traduirait ça en français, Henri? On dirait de code chaudière, c'est ça? Chaudière thermique pour bouillir d'eau?
It's boilerplate.
Voilà.
Une machine à gaz, une usine à gaz.
C'est toi qui l'as dit. Un code d'usine à gaz. voilà. Et donc, avec ce record, on n'a plus besoin de faire ça parce que le compilateur va tout générer, en fait. Il génère aussi toString, equals et hashcode, qu'on peut éventuellement écrire à la main si on veut un comportement particulier. Mais si on se satisfait du comportement par défaut fourni par le compilateur, on n'a pas besoin de l'écrire. Donc déjà, on a beaucoup moins de code à écrire. Ça, c'est une première chose. Et puis à côté de ça, il y a un truc qui va arriver hein, dans les nouvelles versions qu'on appelle la déconstruction. Et ces records, c'est des trucs qu'on va pouvoir déconstruire en fait. Aujourd'hui, on sait comment construire des objets, et dans le cadre de ce qu'on appelle le pattern matching, on va pouvoir aussi donc comment traduire pattern matching. Correspondance de motifs, mais si on parle comme ça,
faut rester lisible quand même. Donc, okay. On va dire pattern matching.
On va dire pattern matching. Le pattern matching, ça, c'est quelque chose qui n'existe pas en Java. Ce n'est pas un concept nouveau. Hein. Ça existe dans d'autres langages depuis plus de 20 ans. Mais c'est un truc qui va arriver en Java et qui va s'appuyer sur la déconstruction.
Et quand on dit déconstruction, parce que je trouve que c'est toujours un peu élitiste ce mot-là, c'est en fait, quelque part, c'est de l'introspection, mais typé par le langage, en fait. Est-ce que c'est une bonne approximation?
C'est probablement, fonctionnellement, probablement. Sauf que ça ne va pas s'appuyer sur l'introspection au sens réflexion. Ouais. Tu vois, la réflexion, c'est un truc qu'on n'a pas forcément envie de faire pour des problèmes de performance.
Non, j'imagine qu'à la compilation, ils vont pouvoir implémenter le code qu'il faut.
Voilà, exactement. Comme à la création, c'est vraiment à la création de la classe que le compilateur sait qu'un record s'est construit sur deux composants. Prends par exemple le premier exemple de pattern matching, et j'anticipe un peu sur une autre fonctionnalité de Java 16 qui est le pattern matching pour instance of. Tu vois, on peut dire si O c'est une instance de string, et maintenant on peut dire si O c'est une instance de string, et puis on dit string S, et ça permet de créer une variable de type S, qui s'appelle S de type string automatiquement. C'est le compilateur qui fait ça. Bah, si on peut dire, bah voilà, cette variable S c'est pas une string, c'est un record de type point, donc c'est instance of de point. Et si tu mets entre parenthèses x, y, le compilateur sait que point, c'est un record qui est construit sur x et y, il sait que x et y, c'est des entiers. Donc, il va te donner, en fait, ces deux variables x et y par déconstruction.
D'accord.
Mais c'est le compilateur qui te fait ça avec les records. Le pattern matching, c'est un sujet qui est passionnant, qui va être extrêmement riche, qui va probablement beaucoup transformer la façon dont on va écrire du code Java. Et les records, c'est une première brique. Enfin, c'est une brique qui va permettre de progresser dans cette direction-là.
Oui, mais c'est vrai que l'une des choses, c'est que nous, on voit venir les features un après l'autre, mais il y a quand même une espèce de tout cohérent dans Java qui fait que les records vont faire partie du pattern matching, vont se lier aussi aux classes qu'on va voir, dont on va parler un petit peu après. Ça a une grosse logique, leur affaire. Ils ne sont pas en train de faire n'importe quoi. Tout est assez adorablement lié et c'est quand même sympathique.
C'est un truc qu'ils auraient réalisé dans une grosse release en 3 ans ou 5 ans de travail, mais qui, là, ils arrivent à décomposer du fait des releases tous les 6 mois. D'ailleurs, ils font aussi des propositions. Donc, il y a des previews d'une la même fonctionnalité 2-3 fois pour améliorer à chaque fois, ce qui est intéressant. Avant, c'était fait à coup de blog et de débats. Je me rappelle les fameuses lambda, les différents débats qu'on a eus, par exemple.
Oui, mais pour ceux, en fait, la règle, donc les records, il y en a eu 2, des previews. Leur règle, c'est on fait des previews tant que la version change, tant que l'implémentation change. Donc, il y en aura à l'infini. Puis, si un coup, c'est stable et il n'y a rien qui est changé dans l'implémentation, le coup d'après, ça devient une officielle.
C'est comme l'algorithme dans l'annotation processeur, là. Il est réexécuté à chaque fois tant qu'il y a eu des changements qui sont appliqués dans la boucle.
Exactement.
Et on parle, je me suis endormi un moment au milieu, mais tu as parlé d'immuabilité ou pas? Et non, mais parce que les gens ont tendance à dire, ouais, les records, du coup, c'est immuable, c'est top. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça, en fait? Il y a la notion de 7 heures, par exemple, dans un record?
Alors, il n'y a pas de 7 heures dans un record, hein, parce que les champs sur lesquels tu les crées sont finaux. Ils sont finaux, donc tu ne peux plus y toucher. Donc, il y a eu une des previews où les records étaient mutables, en fait, où tu pouvais changer l'état transporté par un record. Mais dans la version finale, c'est plus le cas.
D'accord. Et est-ce que Henri, avec ses librairies, va pouvoir rendre muables les records?
Henri, fais bien attention à ce que tu dis.
Non, mais je pense que c'est impossible. C'est assez rigolo parce que quand un champ est final en Java, il est supposé être final, mais en vrai, il ne l'est pas. C'est-à-dire que si on tape avec unsafe sur le champ, par exemple, on va être capable de changer la valeur. Donc, le final est un faux final, ce qui a toujours été un problème parce que, d'un point de vue optimisation de JVM, c'est pas plaisant qu'un champ final puisse bouger. La JVM est obligée de se garder un petit hook pour vérifier s'il n'y a pas quelqu'un qui fait l'andouille, là. Et donc, les records, un début, c'était que ça soit vraiment pas possible. Donc, d'un point de vue de la façon dont ils ont modélisé le truc, ça, si tu essaies, ça va exploser systématiquement. Mais par contre, c'est vrai que ça leur permet des optimisations, genre du unstack, allocation, qui est pas encore le cas d'ailleurs. Mais un record, comme tu dis, la classe point, comme c'est un genre de tuple dont les valeurs vont être ensemble, mais qu'il n'y a pas besoin d'avoir une classe réelle qui est instanciée autour, tu peux les mettre, dans ton stack et, je vais pas te donner de cours d'informatique, mais c'est plus rapide à la fin.
C'est à opposer à l'espace mémoire où on a les objets et du coup on a des références à les stacks. C'est en gros José pourra parler mieux que moi, mais c'est un tableau qui est associé juste à côté de la méthode et du coup les accès sont plus rapides.
Exactement,
et surtout
ce qu'on appelle la pile.
Voilà, on peut tout virer d'un coup.
La pile en français.
C'est le terme savant pour définir les records. Les gens disent, ce sont des tuples nommés. Et donc là, ça dit tout. Voilà. Une fois que tu as dit ça, tu as tout dit. Et c'est cool parce que personne t'a compris, donc tu as immédiatement l'air très intelligent. Donc okay. Tu as le choix, soit tu as l'air très intelligent, soit tu endors les gens en expliquant.
C'est bon, il nous reste 14 autres fonctionnalités, on a fait 26 minutes. Donc les records, en fait, on va voir un petit peu l'usage. Pour l'instant, il y a beaucoup de blogs un peu prospectifs, même des abus, hein, des gens qui disent ah, ça va être des DTO, etc. Sachant qu'attention, il y a aussi la notion de non-muabilité, donc peut-être que ce ne sera pas les bons usages, mais elle est là et c'est à voir en termes d'usage pour le futur. Le deuxième, c'est, on en a parlé un petit peu, c'est le fameux pattern matching qui permet de typer, enfin, ça permet de faire quoi d'ailleurs?
Alors, le pattern matching, c'est pareil. Là, c'est que la première étape d'un truc qui va être beaucoup plus large et qu'on va voir au fil de l'eau, au fur et à mesure que les versions vont être publiées. Pour l'instant, c'est ce qu'on appelle le pattern matching pour instance of. Donc, au niveau de la syntaxe, là où je mettais juste if o instance of string, par exemple, voilà. Et puis, à l'intérieur de la bonne branche du if, je mettais string s égale entre parenthèses string o pour caster o en string, ben là, je vais pouvoir le faire directement dans la déclaration du instance of. Et donc, je me retrouve en fait avec une variable s qui est créée au niveau du instance of et qui est valide dans l'espace en fait, dans lequel ce booléen est vrai. Donc, si je fais if o instance of string s et quelque chose, bah dans cette partie de l'expression booléenne et, je vais pouvoir utiliser s parce que s, il a du sens dans cette partie-là. Okay, puis évidemment, dans la bonne branche du if, je vais pouvoir aussi utiliser cette variable s qui a été créée. Donc ça, c'est assez pratique. Hein, ça va me permettre également d'alléger le code que j'écris. Est-ce que ça va le rendre plus lisible? Oui, probablement un peu. Mais encore une fois, ça n'est que la première étape de quelque chose qui va continuer à évoluer. Et qui va être génial, quoi.
Ouais, pour l'instant, ça ressemble à du sucre syntaxique, en fait, plus qu'autre chose, mais c'est vrai que c'est plaisant. C'est plaisant parce que on s'est toujours dit, mais je viens de dire le instance of, pourquoi le compilateur, il me force à mettre le cast maudit, ça sert à rien.
Ouais, et puis surtout, même il y a longtemps, on fallait mettre des dépréciations de warning parce que tu disais, t'as dû le caster, c'est mal. Et là, tu dis, bah oui, mais bon, ouais. C'est pas le choix.
Absolument, ouais.
C'est là où on dit que le Java n'était pas si typé que ça, en fait, en tout cas à ses origines, par rapport à d'autres langages d'ailleurs encore. Et est-ce que je pourrais dire, justement, en parlant de ça, est-ce que, donc là, on a parlé de objet, donc qui est forcément le papa de toutes les, la maman de toutes les classes, mais, enfin, tous les types de classes, mais est-ce que je pourrais dire, est-ce qu'une string pourrait être instance of integer, ou est-ce que ça va à la compilation me dire, attends, t'es en train de d'évaluer un truc qui est impossible?
Ben ça, c'est déjà le cas. Hein. Si tu fais string s instance of integer, ça, c'est, le compilateur, il te dit déjà que tu peux pas, que ça peut pas être vrai. Hein.
D'accord. Ouais, ben donc, ok.
C'est déjà le cas. Ouais, c'est déjà le cas, non? En disant ça, je me dis, est-ce que c'est déjà le cas ou est-ce que c'est l'IDE qui me dit ça?
Ouais, c'est déjà le cas. J'ai un léger doute, mais je pense que tu as raison. Oui, je pense que le compilateur, c'est pas l'IDE, c'est sûr au minimum, mais je pense que le
compilateur le fait,
va te dire, ça sert à rien. Ces deux types-là sont incompatibles. Je suis pas mal sûr que c'est le compilateur qui dit quand c'est incompatible. L'IDE va te dire quand tu es en train de caster pour rien. Justement, si tu fais instance of object, il va te dire, hey, bozo, c'est déjà object, ça sert à rien. Ça, c'est l'IDE. Mais par contre, string à integer, ben, c'est le compilateur.
Ouais. En fait, non, j'allais dire une mauvaise blague, donc on va éviter.
Vas-y, mais si, je t'en prie, on est entre
non,
nous.
Non, mec, c'était. L'IDE, il te tape sur les doigts, genre, mais t'es trop bête. Et puis, il te donne quand même l'explication. Alors qu'à l'époque, les compilateurs sont beaucoup améliorés, mais quand on a tous démarré, là, à l'époque, le compilateur, il t'expliquait par la théorie de Bac plus 12. Que t'as rien compris et du coup t'avais l'impression d'être une sous-merde parce que tu comprenais même pas l'explication de l'erreur.
j'ai toujours été assez bon parce qu'au début, comme il y avait même pas de type, quasiment c'était simple, mais par contre une erreur C++ de générique, c'était assez funny. Oui, t'avais un bon dealing d'explication pour te dire pourquoi t'as fait quelque chose de mal, et c'est assez divertissant.
Tiens, je reviens sur les records. Est-ce qu'on pourra faire un proxy des records? Parce que j'ai vu qu'on va pouvoir changer les getters, justement. On a parlé José. Donc, est-ce que la notion de proxy d'un record, ça a du sens ou une utilisabilité?
Henri, ça c'est pour toi. Tu peux faire un proxy sur une classe finale?
Il fait des grands yeux comme ça.
Non, mais j'ai la réponse, mais c'est José qui avait été appelé, donc je l'avais laissé faire. Mais,
je t'en prie.
C'est assez perturbant, ça, parce que vu que la classe est finale, puis pareil, elle est très strictement finale, celle-là, tu peux pas vraiment jouer à ce que tu ferais avec PowerMock, par exemple, genre tu fais sauter le final quand tu loads la classe et puis ça fonctionne. Là, t'es juste foutu. Il faudrait quasiment que tu la réécrives au complet, que t'enlèves le fait que c'est un record pour réussir à faire quelque chose. Théoriquement, ouais, ça c'est un peu violent. Théoriquement, là, c'est comme ce genre de tuple. Ça rentre dans la catégorie bébelle que tu n'es pas censé moquer. C'est comme une classe point. Quand quelqu'un, ça arrive des fois sur Stack Overflow, là, les gens ils font des mocks de points. Tu dis, là, donc, ils se tapent 8 commentaires de gens, arrête de faire ça, c'est juste un value type. Tu n'es pas censé moquer une bébelle qui contient un X et un Y. Ça t'arrive à le gérer, ça. Donc, je pense qu'il faut le voir un peu comme ça. Je m'attends pas à ce que ça soit proxyé, je m'attends pas à ce que ça soit moqué de façon générale. Voilà.
Pourquoi est-ce que tu aurais envie de faire un proxy sur un record?
Oh, tu sais, les utilisateurs, c'est pas la question qui se pose. C'est est-ce que c'est faisable? Non, mais je me demandais, bah, effectivement, c'était un mauvais usage, mais je me demandais, après tout, les gens moquent plein de choses, hein, y compris effectivement des data values, et du coup, voilà.
Ben, il y a des trucs qui pourraient arriver, c'est que tu peux te dire, si Hibernate, par exemple, est capable de loader des records quand c'est des valeurs immutables qui sortent de base de données, mais par contre, il veut lazy loader certains des champs, ben, tu pourrais te dire, hey, ça serait sympa de pouvoir proxyer. Et là, je confirme, c'est impossible. Donc
on charge tout le graphe. C'est immuable, mais c'est plus lent parce que tu charges plus de trucs, mais c'est immuable.
c'est exactement ça. Tu peux pas avoir de propriétés dérivées aussi à cause de ça. Donc, qui sont précalculées puis que tu rajoutes dans ton champ de record pour la garder par la suite. Je suis pas sûr que je suis content avec ça. Les records, je suis pas content que tu peux pas rajouter de champ. Puis je suis pas très content qu'on ne puisse pas.
Quand tu veux dire sous-classer, là. L'équivalent de sous-classer. Quand tu dis rajouter des champs.
Non, ça serait de dire d'avoir des champs plus que les champs d'immutabilité. Donc, d'avoir un peu de lazy là-dedans pour ajouter des champs. Après, je comprends que ça brise tout le concept, donc je vais accepter ça. L'autre truc que je trouve un peu dommage, mais qui m'a été vaguement justifié, c'est tu peux pas avoir de constructeur privé si tu as des méthodes de... Si tu as des... Disons que le scope du constructeur doit être le même que si tu mets une méthode statique qui fait de l'instanciation. Moi, j'aime beaucoup avoir des méthodes statiques qui me créent les objets pour ne pas appeler les constructeurs. Je trouve ça plus élégant.
L'équivalent mais du builder pattern pas. Un peu.
Ouais. Voilà. Mais là, je n'ai pas le droit, parce que j'ai pas le droit de mettre le constructeur en privé. Donc, je peux mettre ma méthode, mais tout le monde va être public. Et je ne comprends pas ce qui justifie ça.
Après, si on avait des paramètres nommés, tu serais content. Mais bon, on n'en a pas. Encore.
Ouais, mais moi, je suis dans le camp de. J'aime pas trop rajouter de la complexité pour le plaisir. Fait que tant qu'à y être, j'en ai pas tant besoin que ça. Mais...
Bah, ton builder pattern, il serait quand même vachement éliminé en termes de besoins si tu avais des paramètres nommés et des paramètres optionnels. Parce que tu dirais non, pour x égale 12, y égale 14. Et
ah,
du coup...
oui, t'as raison. Tu as raison. Je pensais pas à un vrai builder complet, je pensais juste à une méthode qui prend des paramètres, qui crée l'objet, mais c'est vrai que je le fais aussi en plus, je pipe des setters par-dessus pour créer, évidemment ça marche pas du tout avec un record ça, mais t'as raison, si t'as des paramètres nommés, c'est comme plus lisible, puis ça marche aussi.
Alors au début, Henri, tu nous disais que le JDK, ils se mettent à bouger des choses qui étaient privées, donc c'est... Ça fait partie du jeu, mais c'est toujours pénible quand tu les utilises, ces trucs-là. Et ils ont introduit la notion de sealed class. Alors, ma lecture de ce que je me rappelle, c'est que ça permet à des frameworks de dire, voilà, ça, c'est les classes qui sont à moi, donc moi, je peux voir, mais pas forcément les autres. Ah non, ça, c'est peut-être les hidden classes. Bon, bref, je suis en train de tout confondre. Expliquez-moi les sealed classes, les classes scellées.
Alors c'est pas uniquement des classes, hein, les sealed classes, ça peut être des interfaces également. D'accord. En fait, ça touche le système de typage.
D'accord.
Okay, ça veut dire que tu crées un type et tu dis, et c'est pareil, c'est une déclaration que tu fais à la compilation. Tu dis, bah voilà, ce type, il ne peut être étendu que par tel, tel et tel autre type.
D'accord.
Et t'es obligé de faire, quand tu fais ça, tu peux créer éventuellement un graphe de type. Tu peux dire, par exemple, cette interface, elle peut être implémentée par ces trois classes, ABC. Et quelque part, il faut que le graphe il soit terminé. C'est-à-dire que s'il y a une classe qui n'est pas finale, il faut qu'elle-même soit scellée et étendue par uniquement une classe qui est finale.
À un moment, tu ne peux pas laisser un truc ouvert. Tu ne peux pas dire B est extensible, mais pas la super classe.
Non, tu ne peux pas. Tu peux pas faire ça.
Tu peux parce que tu peux en mettre une non-sealed. Avec le petit keyword, il y a un mot-clé avec un tiret au milieu qui permet de dire que... l'exemple qu'il donne tout le temps, c'est quand tu as une forme, disons, puis que tu as un rond et un triangle, puis à côté... Non, triangle, c'est pas un bon exemple. Donc, tu vas avoir un rond puis un polygone. Là, tu peux dire polygone, elle, je vais la laisser ouverte. Donc, les gens, ils peuvent étendre polygone comme ils veulent. Donc, tu la non-sealed. Mais par contre, la forme, l'interface forme, elle va être sealed et va permettre que des cercles et des polygones. Si, je ne sais pas si je suis clair.
D'accord. Si, t'es clair. Enfin, pour moi, t'es clair. C'est-à-dire que tu dis un cercle, il est scellé parce qu'il n'y a pas de raison de rajouter des points sur le cercle. Il y en a déjà une infinité. Ou zéro, en fonction de comment on voit les choses. Et puis, un polygone, bah, il peut y avoir les triangles, les carrés et puis une infinité, puisqu'on peut rajouter des n. Et du coup, tu veux dire la forme est scellée et elle ne peut avoir que des polygones et que des cercles, mais les polygones eux-mêmes peuvent avoir des... On peut décider de l'ouvrir pour avoir des spécialisations que ce serait triangle, carré, rectangle, etc.
Exactement.
Ok. En tout cas, du coup, on voit bien que le pattern matching, ça pourrait être intéressant parce qu'on va pouvoir dire parmi les classes de forme, et je vais, premier cas... Le cercle, deuxième cas, le polygone. C'est ça?
Oui.
C'est ça l'idée magique.
Donc, exactement. Ça limite l'architecture. Il y a des raisons un peu de sécurité. On sent qu'ils veulent empêcher que les gens y étendent des classes pour pouvoir rajouter des protected ou des choses comme ça. Donc, ils veulent limiter l'usage possible en les étendant de certaines classes sans être obligés de les mettre finales. Donc, ils se réservent le droit de pouvoir rajouter des trucs à côté plus tard, si le besoin se fait sentir, mais d'un point de vue quadriciel et pas du point de vue utilisateur final. Donc, ils veulent empêcher les utilisateurs finaux de faire des bêtises, globalement.
C'est philosophiquement, j'entends, Mais la force de Java, ça a été finalement son ouverture, et notamment son API de réflexion, de pouvoir faire sauter les finaux, de pouvoir faire des sets accessibles à droite à gauche. Du coup, ça me chagrine, personnellement.
Tu peux pas savoir comment ça me chagrine aussi. Je mets une meurtrière pour un peu plus tard dans la session, là, mais...
Mais alors, les Sylvas, c'est une preview feature, elle n'est pas terminée encore. C'est du preview, hein. C'est pas...
Mais bon, il y a des choses dans lesquelles c'est des previews, mais ils changeront pas quand même. Tu sais quand même qu'il y a des fondamentaux, quoi.
Ouais. Après, les seals sont intéressantes. Ben, moi, je trouve que c'est de la complexité. Surtout, il y a beaucoup de keywords qui ont été ajoutés pour un truc qui me semble très anecdotique d'un point de vue architecturel. Ça me semble un peu puriste. Et bon,
c'est surtout qu'on a tendance à vouloir réduire l'héritage, hein, quand même, globalement. En tout cas, par rapport au début de l'univers Java où on était à fond sur l'object oriented avec plein de sous-classes. Au final, maintenant, on est là. Bon, en fait, les hiérarchies assez plates, c'est quand même, ça fait le job et on préfère la composition. Voilà, on préfère d'autres approches. Et le SILD, il est là parce qu'il y a hiérarchie de classe.
Le SILD classe, c'est une idée qui a été, qui était déjà débattu il y a au moins 4 ou 5 ans par John Rose, là, qui est l'architecte de la... Je ne sais pas s'il est toujours... L'architecte de la JVM, qui voulait avoir ça pour pouvoir faire des optimisations dans les appels d'implémentation au niveau de la JVM. Il demandait ça dans une présentation qu'il a faite au JVM Summit. Et ça, cette présentation, elle doit avoir au moins 4 ou 5 ans. Donc c'est un truc qui est demandé par les gens qui font la JVM depuis vraiment longtemps. Lui, il parlait pas de SILD class, il parlait de SILD interface, en fait. Il voulait, quand tu manipules une interface, il voulait avoir la possibilité de se dire, voilà, cette interface, en fait, elle n'a que deux implémentations, trois implémentations, c'est ça. Il n'y en a pas d'autres. Et donc, pour pouvoir créer des optimisations, et donc ça a à voir beaucoup avec les performances, avec la façon dont le code va s'exécuter dans la VM, et donc dans les performances du code Java. Donc c'est pas un petit truc, c'est pas juste un sucre et syntaxie qui va permettre de faire sauter les clauses default dans les switches, par exemple, hein. Il y a d'autres impacts quand même de ce truc là c'est vrai que les defaults dans les switches, quand on n'a pas besoin, c'est très énervant. Mais bon, voilà.
Mais c'est vrai que, oui, t'as raison, on en a pas parlé, mais c'est vrai que c'est lié au côté de pattern matching qui te permet d'avoir un cercle restreint dans un switch. C'est lié au record parce qu'une sealed class peut être implémentée par un record pour donner une classe finale par-dessus, fait que ça a comme une genre d'utilité étrange. Tout ça va un petit peu ensemble. Et oui, il y a des optimisations. Là, je sais pas, oui, pour ceux qui connaissent un peu moins le en dessous du couvercle de Java, le fait d'avoir du polymorphisme en Java est coûteux. Donc, la JVM va essayer de savoir s'il y a une seule implémentation d'une interface, par exemple, parce que comme ça, elle n'aura pas besoin de faire des appels virtuels, en fait, donc d'aller dans les vtables pour retrouver la méthode à appeler, parce qu'elle va dire ça va être toujours la même. Et ça a un gros impact de performance de pouvoir faire ça.
Donc, et si vous voulez passer pour être en classe dans les dîners mondains, si vous pouvez voir des gens, vous appelez ça du mégamorphisme. Et c'est le moment où la JVM, elle passe de « je sais exactement les classes possibles » jusqu'à « bon, il y en a trop, j'abandonne » et du coup, je fais un code qui est plus lent, mais qui marche tout le temps.
Et elle est pas très haute, la limite, hein, c'est 2 ou 3, hein, c'est très très faible, la limite.
Ouais, je pense pas 1.
Je pense qu'à 3.
Je crois qu'à 3, c'est mégamorphique.
Oui, exactement, je crois.
Si on se trompe, c'est Rémi qui te chargera de nous engueuler sur le...
C'est ça. En tout cas... C'est en dessous de... c'est pas un nombre, c'est un chiffre.
Oui, c'est un chiffre.
Ah oui, c'est en dessous de 4.
C'est marrant qu'on puisse pas... Alors, il y a peut-être un trick parce que c'est codé sur un bit ou deux bits, mais c'est marrant qu'on puisse pas le rentrer en paramètre de la JVM parce qu'il y a des cas où on se dit... Enfin, il y a des cas, je sais, qui me sont arrivés en me disant, bon, je sais qu'il y en a 4 et donc, bon... C'est pas beaucoup plus que 3, allez. mais ça avait un coût assez fort. Et le mégamorphisme, il est détecté au runtime, puisqu'en fait, la JVM dit, moi, j'ai chargé toutes ces classes-là et je sais qu'il n'y a qu'une seule implémentation de cette interface. Du coup, j'optimise. Et puis, si vous chargez une nouvelle classe qui implémente cette interface, il y a ce qu'ils appellent des optimisations qui vont aller casser l'optimisation et passer en mégamorphisme. Voilà.
D'ailleurs, ça, c'est un truc contre lequel on sera protégé avec les seals de type. C'est-à-dire que tu ne pourras pas créer au runtime, je suis désolé Henri, hein, mais tu ne pourras pas créer au runtime de type, de nouveaux types, tu vois, avec tes hacks de par derrière. Non seulement ce sera vérifié à la compilation, que tu n'as pas créé de type supplémentaire pour étendre, pour implémenter cette interface ou étendre cette interface du point de vue des types, mais ce sera également vérifié à l'exécution. C'est-à-dire que même à l'exécution, tu ne pourras pas charger une classe ou créer une classe qui étendra cette interface.
Donc pareil, les bins Spring et les entités Hibernate, vous n'allez pas les sceller. C'est ça que ça veut dire, hein?
Oui, ça veut dire que... Mais ça, c'est le bout qui me perturbe, c'est que ça veut dire qu'il faut que tu penses à ce genre d'usage-là de « je veux faire un seal design, mettons, mais ça veut dire que je prends pour acquis que personne ne va vouloir moquer ce truc-là et personne ne va vouloir le proxyer parce que sinon, mon truc, il ne marchera pas et ça va être l'enfer sur Terre. Il y a comme une... Il n'y en a jamais eu ça en Java. Ne pas être capable de faire n'importe quoi avec n'importe quoi, c'est... En tout cas, jusqu'à présent... quand tu as un mauvais design, tu n'arrivais pas à bien tester. Puis tu prenais PowerMock ou quelque chose pour hacker ton chemin. Là. Mais en façon générale, si tu as un design qui était beau et élégant, tu pouvais utiliser des frameworks de mock classiques et ça marchait bien. En fait, pour même appuyer là-dessus, tu pouvais même ne pas utiliser le framework de mock. Tu pouvais juste créer ta classe anonyme dans ton coin puis ça marchait. Genre Bob Martin, c'est son fun. Lui, il prend jamais de framework de mock en principe. Et donc, jusqu'à maintenant, c'était possible en Java de tout faire sans avoir de framework très complexe. À partir de 9, c'est devenu bizarre. Donc, tu es obligé d'avoir des mockitos qui font plein de trucs étranges pour créer leur mock. Et à partir des seal class et patata, ben, tu es obligé de réfléchir à est-ce que je veux que ça soit mocké ou non, parce que c'est possible que ça ne soit pas possible de le faire. Ça me perturbe beaucoup.
Et en parlant des classes scellées, donc j'ai confondu les classes scellées avec les classes cachées, qui sont une fonctionnalité qui est arrivée en Java 15, donc un tout petit peu avant. Au fait, la Java 17, ça sera la LTS pour information, pour les gens qui sont un peu confus. Donc la 16, elle a encore 6 mois à release rapide, mais la long-term support, c'est la prochaine. Et donc dans la 15, il y a les classes dites cachées. Et ça sert à quoi les classes dites cachées ?
Je te la donne. Tu veux y aller, José ?
Vas-y, Henri, c'est toi qui
es. Sous le capot, c'est Henri. Dans la voiture, dans l'habitacle, c'est José. Allez, hop.
Parce qu'on a la clim dans l'habitacle.
En ce moment, ça va, il n'y a pas trop besoin.
Les classes, ben c'est super étrange. Les classes cachées.
C'est le mot de l'épisode, on va dire. Ouais. Java 16, l'étrange.
Ouais, c'est pas mal ça. OK, l'idée des classes cachées, c'est, ils se sont dit, il y a des classes qui sont pas utiles à être découvertes par de la réflexion, entre autres. Donc, ces classes-là ne sont pas dans un class loader. Elles sont créées dehors, dans un coin. C'était déjà le cas, donc il y a déjà un morceau dans Unsafe qui permet de créer ces classes-là. j'ai plus le nom de la méthode en tête, mais
Unsafe.cache, je pense que c'est ça.
C'est ça? Anonymous ou Hidden? C'est peut-être un des deux. Mais voilà.
Je sais pas, moi je scanne un blog et ça dit Anonymous Class. Okay. Non, il y a Hidden Class aussi.
Ouais, je pense que c'est ça. Donc ça permettait de faire une classe. Donc en gros, tu lui passes un Arid Byte, ça te crée une classe et cette classe-là ne sera pas dans le class loader. Donc si tu pouvais passer à travers dans aucun class loader. Pourquoi tu voudrais faire ça? D'une certaine façon, parce que tu te dis que c'est de l'implémentation interne et que tu veux te planquer dans un coin et qu'on n'arrive pas à te voir. En théorie, ça serait de dire les proxys, par exemple, justement, qui sont créés par proxy.defineProxy. Il y a aussi, les lambdas sont comme ça. Donc, un lambda, c'est une classe hidden. L'implémentation du lambda qui est créé par la JVM. C'est pas une mauvaise idée parce que ça enlève le bruit. C'est-à-dire que quand tu fais tu veux faire du scanning ou de la deep reflection, tu vas à la recherche de classes, c'est vrai que c'est pas nécessairement plaisant de voir des nouvelles choses que tu t'attendais pas à voir. Donc, ça peut aider à la compatibilité des frameworks par la suite. Pas tout le temps, Parce que des fois, c'est bizarre, parce que justement, cette classe-là va quand même être référencée quelque part, donc tu vas peut-être tomber dessus, puis là, tu vas tomber sur la classe mystérieuse qui sort d'aucun class loader et tu ne sauras pas trop quoi faire avec.
Disons que ça va si elle a une interface, par exemple. Les proxys, c'est un truc intéressant. Les utilisateurs normaux s'en fichent, donc s'ils ne le voient pas, c'est très bien. Mm-hmm. Par contre, à l'interaction entre deux frameworks, si Hibernate met un proxy lazy, ça serait bien que, mettons, le mapper JSON, il soit au courant qu'un proxy lazy d'Hibernate, faut pas aller le toucher agressivement. Mais à ce moment-là, Hibernate peut définir définir un contrat, une interface qui est implémentée par ça. Après, le proxy en lui-même, pour le coup, on n'a pas besoin de voir le détail. Du coup, ça pourrait être caché.
Oui, et ça a aussi une genre d'utilité à côté, c'est que cette magie-là, quand tu as des stack traces, les classes clashées, par défaut, elles n'apparaissent pas, fait que ça t'enlève un peu de complexité. Là. On pourrait imaginer en Groovy ou en Scala, quand les stack traces sont toujours dégueulasses, parce que ben si tout ce que génère Groovy et Scala devient des hidden classes, soudain, padada, ça ressemble à quelque chose de lisible, par exemple.
Oh, il y a une solution vachement plus simple, hein. Tu prends le... t'interceptes le tableau de ta stack trace et puis t'enlèves toutes celles que tu veux cacher. Hein. Ce sera quand même plus simple à implémenter.
Tu peux aussi. Mais j'avoue que c'est un usage très pointu et anecdotique. Puis c'est surtout pour des classes qui sont générées dynamiquement par la JVM actuellement. Donc, c'est pas quelque chose que personne va utiliser en vrai. Non. C'est pas pour le commun.
Un autre avantage, c'est que c'est pas attaché à la vie du class loader. Donc, elle pourrait être éventuellement garbage collectée, surtout si c'est des classes qui sont utilisées au boot time et plus après, c'est ça?
Ça, je ne sais pas. Je ne me rappelle plus. Donc, je vais pas m'avancer.
Ça me semble bien de ce que je me rappelle, moi. OK. On passe à la suite. Il y a un nouvel utilitaire. D'ailleurs, il y en a qui ont disparu aussi des utilitaires. Je ne sais plus si on les avait listés, mais il y en a un qui est nouveau qui s'appelle JPackage, qui permet en gros de faire un exécutable de son application Java. Donc, on n'est pas obligé de faire java-jar et l'application, mais on aurait un exécutable. Je ne sais pas s'il est multiplateforme ou pas, mais on aura un exécutable qui contient la JVM elle-même et du coup qui démarre tout seul.
Ça dépend ce que tu veux dire, oui. Ça dépend ce que tu veux dire par multiplateforme. C'est-à-dire que si je suis sur Mac, il va compiler un point, voyons, DMG, là.
DMG, c'est DMG voilà. Sur Mac.
Non, DMG, c'est DMG. DMG, c'est pas le truc d'installation, ça. C'est pas le...
Oui, mais c'est ça que ça fait. Ça me fait un...
C'est ça que ça fait.
Ça fait un DMG.
Ah, c'est un installeur. Non,
genre.
Allez-y, continuez.
Mais j'ai pas essayé. Pour vrai, j'ai essayé que sur Mac. Mais de mon souvenir, sur Windows, ça fait un EXE. Je crois. Et sur Linux, ça fait quelque chose qui est un exécutable Linux.
Ça peut te faire un point .deb ou un RPM sur Linux, selon le système de package que tu utilises. Et sur Windows, ça peut te faire un point .exe ou un point .msi également. Donc, ça te fait un installeur sauce Windows.
Ça confond deux trucs. Moi, je pensais que c'était aller créer un exécutable qui est ton application. Mais en fait, ce que vous êtes en train de dire, c'est que ça crée un installeur.
Un MSI,
c'est un installeur. Un RPM, c'est un installeur.
Ouais.
Un .exe, ça peut être un installeur aussi.
Oui, parce qu'un MSI est un .exe, mais d'accord.
Et c'est ça l'idée, en fait. C'est de te packager en même temps le tjar, en fait, et puis ton runtime. Et tu peux même si tu as un runtime particulier, alors c'est également un travail en cours, le JPackage, c'est quelque chose qui va évoluer dans les prochaines versions. Alors je ne sais pas si aujourd'hui tu peux le faire, mais en tout cas c'est dans les cartons. Si jamais tu veux configurer la machine virtuelle avec des options particulières, notamment si tu veux régler la mémoire qu'elle va utiliser, tu vas pouvoir aussi mettre des paramètres. Des paramètres de lancement de ta VM dans ce truc qui va te permettre de déployer ton application, en fait. Voilà.
J'aime beaucoup cet outil. En fait, pour ceux qui sont très vieux comme moi, en 2000 et quelques, on était capable de faire des exécutables avec du Java. Donc, Microsoft proposait ça, Symantec proposait ça, puis c'est comme disparu dans l'atmosphère, puis c'est devenu quelque chose d'assez complexe par la suite. Non, c'est pas vraiment un exécutable parce que c'est pas compilé en exécutable, c'est vraiment une JVM qui tourne, mais t'as un point d'entrée qui est comme caché, puis ça ressemble à une vraie application. Tu peux lui mettre une icône, tu peux faire ce que tu, comme tu veux. Mais donc, c'est quelque chose que tu peux distribuer un truc Java à des gens, ils vont avoir l'impression que c'est pas du Java, ce qui est toujours agréable. L'autre truc sympathique, c'est que grâce un peu au système de modules, puis aux dépendances, puis à d'autres outils comme JDEP, JLynx, tu peux regarder ce que ton application utilise, puis tu peux te créer une JVM custom qui contient juste les modules que tu utilises vraiment dans ton paquet, dans ton application. Fait qu'à la fin, tu finis avec quelque chose de tout petit par rapport à une JVM au complet. Et donc, tu peux diminuer grandement le truc que tu déploies. Avec les modules, c'est magique parce que ça marche tout seul. Donc, il va voir les modules décrits strictement, puis il va te mettre ça tout seul. Si t'es pas modulaire, tu vas être obligé de lui dire, moi, je veux tel module de la JVM. Il va te les, il va juste te packager ça pour te créer ta petite JVM à toi. Et tout ça va fonctionner merveilleusement comme une vraie appli.
D'accord.
Il y aura une possibilité, alors, dessus Linux et Mac, je connais moins bien, mais je sais que sur Windows, soit c'est déjà fait, soit c'est en projet, mais tu pourras aussi installer des services, tu vois. C'est-à-dire, les gens pensent à l'installation d'applications.
L'équivalent de démon, en fait, c'est ça que tu veux dire.
Voilà, exactement. Mais tu pourras, tu peux aussi, avec ce truc-là, automatiquement déployer des services sur une machine Windows. Donc, des choses qui n'ont pas d'IHM et avec lesquelles tu ne vas pas interagir directement. Ce qui est aussi quelque chose qui peut être pratique, quoi. Voilà. Et puis il y a plein de projets vis-à-vis de Docker, vis-à-vis de Kubernetes et tout ça pour pouvoir déployer des choses dans des containers et des trucs comme ça. C'est quelque chose qui va encore évoluer au JPackage, manifestement, enfin dans les trucs que les gens publiaient sur JPackage. Il y a pas mal de choses pour les versions futures qui sont annoncées, qui vont arriver.
Ok, alors il nous reste 40 minutes, Henri est chaud. On va passer à la fonctionnalité. C'est la fin de la partie, hein. Désolé, je vous laisse sur ce suspense exaltant. Et on parlera donc avec José et Henri de plein d'autres choses, et notamment cette fameuse nouvelle fonctionnalité dont Henri est un petit peu énervé dessus. Voilà, et encore plein de choses intéressantes dans la suite, soit en prochain épisode, soit à celui d'après. Le thème musical est le thème numéro 3, gracieusement offert par podcastthème.com, podcastthemes.com. Le logo a été dessiné par Nicolas Martignol, alias le Touilleur Express, www.touilleur-express.fr.